Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous et nous poursuivons notre série Environnement qu'il est dur de convaincre. Nous avons rencontré à la fois une historienne, nous avons rencontré Jean Jouzel qui nous a parlé de glaciologie, de climatologie, membre du GIEC. Nous recevons ce soir Cécile Renoir, professeure de philosophie au Centre Sèvres. Elle enseigne également à l'École des Mines, à l'ESSEC, à Sciences Po, mais elle dirige aussi un programme entreprise et développement. Son travail à elle, c'est d'étudier vraiment le rapport entre les acteurs privés, c'est-à-dire les entreprises, et leurs responsabilités éthiques et politiques en matière d'environnement. Donc dans le cadre de partenariats avec des entreprises, également en lien avec l'Agence publique de développement, elle travaille donc sur la mesure, la contribution des entreprises à la qualité de ce lien social et écologique. Bonsoir Cécile Renoir, et on va également parler, vous y tenez beaucoup, d'un campus de la transition que vous dirigez.
Bonsoir Dominique Rousset.
Comment convaincre ? Donc, c'est le point que nous avons pris pour toute cette semaine, et il est intéressant de voir par rapport à différentes disciplines des sciences sociales, comment les uns et les autres vous envisagez cette question. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la fameuse RSE, n'est pas nouvelle, on va peut-être le rappeler. Elle est en lien avec l'éthique de l'environnement, une branche vraiment de la philosophie de l'environnement qui existe déjà dès le milieu du XXe siècle et qu'on va sans doute dépasser. Mais revenons quand même sur cette définition, responsabilité sociale des entreprises qui vous a très tôt intéressé.
Oui, alors je ne vais pas revenir trop loin dans l'histoire, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment cette notion a pu évoluer avec une date assez charnière qui est celle de 2011, puisque jusqu'alors la RSE était largement comprise comme ce que font les entreprises au-delà de ce qui est prévu par la loi. C'était une perspective d'ailleurs très anglo-saxonne qui considérait plutôt que l'entreprise, bien voilà, elle a des devoirs liés aux règles des pays et des filières dans lesquelles elle développe ses activités, et puis elle peut faire des donations charitables aux communautés locales, développer des projets un peu à côté de son cœur de métier. Et en 2011, la Commission européenne a donné une définition de la RSE qui est vraiment un changement de paradigme, puisque la RSE est définie comme la maîtrise par une entreprise de ses impacts. Et là, on voit bien que c'est une perspective, une philosophie tout à fait différente, puisque ce qui est d'abord en jeu, c'est le cœur de métier de l'entreprise. Et puis, la question des impacts ne se réduit évidemment pas à ce qui se passe uniquement pour les salariés de l'entreprise directement, mais ça implique une réflexion sur l'ensemble des chaînes de valeur, et puis évidemment à différentes échelles, sur les territoires dans lesquels les entreprises sont implantées, et ça peut aller jusqu'à la prise en compte forte, voire déterminante, des enjeux globaux comme celui du climat. Donc évidemment, ça élargit en un sens la façon dont on considère les responsabilités des entreprises, et ça invite surtout, et je pense que c'est ça une très bonne nouvelle par rapport à l'intégration de ces questions écologie, climat, biodiversité, etc., ça oblige l'entreprise à regarder s'il y a ou pas une cohérence entre la façon de créer de la valeur, au sens de valeur économique et financière, la manière de la partager et la façon de développer une activité dans la durée, en respectant les personnes et la nature.
Quelle a été la réaction des entreprises ? Comment ont-elles accepté cette contrainte quand même nouvelle ? Parce que une contrainte également sous la pression de l'opinion publique, on va y venir.
Contrainte plus ou moins, puisque la RSE, ça reste quand même ce qu'on appelle de la soft law, donc du droit mou. Ce qui veut dire que les entreprises,
libres de
faire ce qu'elles veulent. Et puis, on voit bien que ça, si l'Europe a pris des positions finalement qui sont exigeantes, au moins en théorie, pour les entreprises, d'autres pays ont des visions qui sont, disons, moins fortes. Par exemple, l'Inde a publié une loi en 2013 sur la RSE, en fait, qui demande à chaque entreprise de dédier 2% de son profit à des actions, en gros, des actions pour les communautés locales et un peu en fonction des demandes qui sont faites ou
qui le leur demandent ou qui le leur ordonnent.
Alors, il y a une contrainte réglementaire, D'accord. C'est se dépenser un certain montant, mais en revanche, sur l'attribution et le lien avec le cœur de métier, ben là, on n'y est pas du tout. Pour juste préciser un tout petit peu, cette définition au niveau européen correspond quand même à une perspective plus large. Elle est liée à la réflexion qui a eu lieu depuis les années 70 au niveau de l'ONU sur l'idée d'édicter un code de conduite contraignant pour les multinationales. Alors, ça n'a jamais vu le jour. En 2000, Ce qu'on a appelé le Global Compact, ou le pacte mondial de l'ONU, a été une manière pour Kofi Annan à l'époque de contourner l'obstacle, c'est-à-dire de dire bah, puisque les entreprises en fait exercent une pression très forte sur les États pour que un code contraignant ne voit pas le jour, demandons-leur de s'engager volontairement à respecter un certain nombre de principes. Donc on a ces 10 principes qui touchent à la fois la question des droits humains, droits fondamentaux, les principes de l'OIT pour un travail décent, et puis des principes relatifs à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption. Et ça a enclenché une dynamique de réflexion sur ce qu'on peut exiger des entreprises et pas seulement des États en termes de responsabilité. Et ce qui a donné lieu, justement, en 2008 puis en 2011, à un cadre qu'on appelle souvent le cadre Ruggie, du nom de John Ruggie, qui était le représentant spécial à l'ONU sur les questions, en anglais, business and human rights, donc sur entreprises et droits humains. Et là, ce cadre Ruggie, qui concerne les responsabilités partagées des acteurs, invite les États à protéger les droits fondamentaux, mais aussi, et c'est vraiment la première fois que ça entre comme ça de manière aussi forte,
s'adresse à l'entreprise.
L'entreprise doit respecter des droits fondamentaux. Et puis, obligation normalement de trouver les moyens, les procédures judiciaires et extrajudiciaires qui permettent de défendre les violations, les personnes victimes de violations de ces droits.
Pas contraignant en Europe, vous l'avez dit, hein, depuis 2011, mais tout de même une pression forte des opinions, des associations, des ce qu'on appelle les ONG, organisations non gouvernementales, et puis de toute cette mouvance des jeunes, on va en reparler un peu plus tard, à laquelle nous assistons ces dernières années. Et cependant, vous étiez très récemment à Rome, j'ai envie de le citer parce que tout de même, où vous étiez à une réunion, je crois, autour de... On ne parlait pas de responsabilité des entreprises, où on parlait de high-tech, où on parlait d'avenir du travail. Jeffrey Sachs était présent, qui s'est très longuement exprimé sur ces questions. Et vous avez été très frappé de voir que ça ne suffit pas encore, puisqu'il était très, très peu question d'environnement et de contraintes climatiques.
Absolument, je trouve frappant.
Et nous sommes en 2019,
oui,
je le rappelle.
Et je pense que ça illustre absolument la difficulté que nous avons tous, les acteurs économiques, les pouvoirs publics, les citoyens, comme consommateurs, à faire entrer vraiment dans notre radar cette question écologique à tous les niveaux.
C'est-à-dire qu'elle n'était pas prévue, elle n'était pas à l'ordre du jour.
Elle était, disons que le thème, c'était un symposium sur l'avenir du travail à l'heure de la quatrième révolution, en gros, numérique. Et donc, une interrogation sur la façon dont le numérique, le digital, change les façons de travailler, les enjeux pour les personnes au travail, quel avenir, avec toute la question des destructions d'emplois, quelle destruction, quelle création, comment accompagner aussi les pays du Sud dans l'amélioration des compétences des personnes pour que ce soit des gisements d'emplois possibles. Et en même temps, avec très souvent un point aveugle qui est celui de se dire l'économie digitale, est-ce que c'est vraiment le moyen d'assurer la transition de nos sociétés, des activités pérennes, durables et avec une répartition équitable des richesses engendrées? On a beaucoup plus parlé des questions de répartition des enjeux sociaux finalement du digital que de la question écologique en tant que telle, qui est
des
une
énergies,
énorme question.
Des énergies fossiles, il n'en a pas été question.
Très peu. Très peu, et notamment
ça vous a
aussi,
beaucoup surprise.
Ça m'a surprise, et notamment aussi de cette question des minerais nécessaires, parce que on sait bien que s'il faut verdir, par exemple, l'électricité nécessaire pour développer le digital, en même temps, pour avoir de l'énergie propre, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on souhaite des énergies renouvelables? Mais ces énergies renouvelables ont besoin de minerais qui sont extraits avec des énergies fossiles, qui sont avec un usage qui est souvent dispersif, notamment dans la fabrication des iPhones ou autre, ce qui veut dire qu'à tous les niveaux, du point de vue de la production d'énergie nécessaire pour la construction de matériel électronique et pour le développement même, l'utilisation de ces appareils, on a besoin d'énergie qui est pour l'instant extrêmement carbonée, et c'est un secteur dans lequel la consommation d'énergie croît chaque année de 9 à 10%, alors qu'il faudrait la réduire de 4% par an pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Donc on voit bien comment il y a énormément de travail encore devant nous pour prendre conscience des impasse de nos modèles et de production et de consommation.
Ça veut dire quand même qu'il faut faire un lien entre l'entreprise et la politique, c'est-à-dire sa responsabilité vis-à-vis des États, bien sûr, mais vis-à-vis de leur population aussi, faire assumer, alors évidemment je parle surtout des grands groupes, leur faire assumer leur responsabilité sociale et environnementale. Et ça n'est pas une mince affaire parce qu'elles rechignent un peu à cela, les entreprises, elles ne se reconnaissent pas forcément dans ce rôle-là.
Oui, c'est vrai qu'on a préféré pendant très longtemps parler de responsabilité sociale de l'entreprise, ou disons sociale, sociétale, environnementale éventuellement, plutôt que de responsabilité politique. Je pense que ces domaines doivent être pris ensemble, parce qu'à l'évidence, les entreprises et notamment les grands groupes exercent une influence politique sur les réglementations. Ça, c'est toute une activité de lobbying qui, en permanence, consiste à pressuriser les États ou les organisations internationales pour que des règles du jeu soient modifiées ou pas, en fonction d'intérêts qui sont souvent à court terme. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, parler de responsabilité politique de l'entreprise, c'est vraiment exercer, on pourrait dire, une forme de lobbying à revers de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, essentiellement, dire plutôt du plaidoyer pour que les règles du jeu communes soient cohérentes avec les grands accords internationaux. Alors on peut prendre, là, dans les années récentes, aussi bien l'accord de Paris sur le climat que les ODD. Et là, les ODD, entreprises, c'est les objectifs du développement durable. Voilà, de l'ONU, qui ont été adoptés aussi en 2015. Et là, les entreprises, et notamment, on peut dire que les dirigeants des grandes entreprises auraient un rôle à jouer pour montrer que sur un certain nombre de sujets, à l'échelle de leur seule entreprise, ils peuvent faire des choses, mais ils n'ont pas toutes les marges de manœuvre, étant donné la compétition internationale, etc. Mais qu'en revanche, transformer les règles du jeu à différentes échelles serait le seul moyen de faire bouger les choses à la hauteur des enjeux.
Vous avez dit qu'elles reconnaissent ce rôle politique qui est, selon vous, évidemment...
Oui, alors pour dire un tout petit peu plus ce qu'on peut mettre derrière le mot politique, parce que ça peut, évidemment, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, de soutenir des partis ou autres.
Non, mais c'est de participer au vivre ensemble d'une société, par exemple.
Voilà, exactement. Et ça suppose, pour expliciter un peu les points durs aujourd'hui qui rendent la manière dont les entreprises agissent souvent, enfin leurs actions très très marginales au regard des enjeux, tout ce qui relève des instruments de mesure, d'évaluation de l'activité des entreprises, donc ce que les anglo-saxons appellent les metrics, tout cela demande en fait des révisions très profondes, que ce soit sur la question des critères d'investissement, pour vraiment faire en sorte que soient intégrées d'emblée en amont les questions de création durable de la valeur économique et financière. Et puis la question des normes comptables, et ça je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus mis sur la table, mais qui touche aussi bien les règles comptables pour les entreprises que les normes IFRS à l'échelle mondiale, et c'est vraiment une révision nécessaire qui sont ces normes qui régulent le commerce mondial et qui doivent être transformées si nous voulons vraiment intégrer de façon structurante cette question écologique et sociale.
Est-ce qu'on s'approche de ce vœu que vous faites ?
Alors, il y a un certain nombre d'experts comptables qui travaillent dessus. Il y a une chaire à AgroParisTech qui vient d'être créée sur ces sujets précisément,
ici en France, donc,
d'une comptabilité extra-financière en triple capital, c'est-à-dire, et là je fais référence aux travaux de Jacques Richard, d'Alexandre Rambaud, qui est justement le directeur de cette chaire, dire comment est-ce que nous faisons pour intégrer ces questions-là, c'est-à-dire en calculant, en évaluant le coût de maintien du capital naturel ou du capital humain, et vraiment en regardant la nature autrement que comme un actif qu'on peut exploiter à sa guise. Travailler là-dessus, c'est vraiment déterminant pour pouvoir justement faire en sorte que l'activité économique et la façon de faire du profit soient compatibles avec des enjeux de long cours.
Cécile Renoir, vous avez justement, pour aller encore au-delà, on est là encore sur la responsabilité sociale et environnementale, et vous proposez d'aller encore au-delà, vous soutenez bien sûr cette dimension politique dont on vient de parler, d'aller encore au-delà, c'est de bien commun qu'il faudrait parler. Au fond, l'entreprise, vous aimeriez qu'elle retrouve un peu cette idée d'entreprendre en commun, et pas seulement pour elle, ni même pour ses seuls salariés. C'est une vision que vous défendez, qui n'est pas évidente à faire entendre non plus. Entreprise comme commun, au-delà de la RSE, c'est un ouvrage d'ailleurs que vous avez fait paraître avec Swann Baumier sur ce thème. Comment a-t-il été reçu, puisque vous fréquentez énormément les entreprises?
Alors, je crois qu'il intéresse. Alors, la notion de bien commun, elle est de plus en plus fréquemment reprise quand même au sein des entreprises, de façon, je trouve, assez souvent ambiguë. Parce que, évidemment, il n'est pas question que ça soit l'entreprise qui définisse ce qu'est le bien commun. Et puis, on peut dire que la notion de bien commun, elle est toujours regardée avec un petit peu de suspicion, disant qu'est-ce que c'est que cette vision.
Condescendance,
ou alors qui pourrait paraître un peu figée, essentialiste de ce que serait le bien commun une fois pour toutes. Moi, j'aime bien relier trois dimensions qui sont à la fois cette notion de bien commun en la reliant à la dynamique des communs, dans le prolongement des travaux faits notamment par Elinor Ostrom, qui avait eu le prix Nobel d'économie en 2009, pour sa réflexion sur la façon dont des communautés humaines, dans l'histoire, ont géré de façon pérenne des ressources, que ce soit par exemple des ressources halieutiques ou autres, des pêcheries, parce que les personnes d'une même communauté en fait s'organisent ensemble pour définir des règles du jeu. Et l'approche par les communs, elle me semble extrêmement intéressante pour se situer dans un débat qui ne met pas face à face simplement la question de la gestion publique ou privée d'un certain nombre de ressources, mais qui consiste à dire, au fond, ce qui est déterminant, c'est que les personnes des collectivités, alors qui peuvent être dans des zones géographiques particulières, mais que la question des communs peut s'appliquer aussi au numérique ou autre, comment des utilisateurs, des consommateurs, des personnes qui doivent pouvoir avoir accès à un certain nombre de biens et services se mettent ensemble pour pouvoir délibérer sur la meilleure manière d'assurer la gestion pertinente de ces communs. Ça veut bien dire qu'on a besoin du pouvoir public pour assurer que cette démarche en commun va pouvoir se faire, mais ça suscite une interrogation à différentes échelles, et notamment à une échelle locale, avec une forme de subsidiarité dans la façon de prendre les décisions, ce qui rejoint bien une interrogation très ancienne sur la manière de définir ensemble les façons d'aller vers des formes de vie en commun, relative à des visions partagées de ce qu'est la vie bonne. Et là, on retrouve la notion de bien commun.
D'accord, mais comment est-ce qu'on évalue, au fond, ces actions des entreprises? Parce que toute la question est là. Jusque-là, on est sur des concepts, on est sur une sorte de philosophie, éthique environnementale. Mais si on peut prendre quelques exemples, qu'est-ce qu'on leur demande? Est-ce que on va ensuite évaluer sur la base de sa capacité à préserver, par exemple, telle ou telle ressource, ou tel bien, ou tel élément de justice sociale, par exemple?
Alors, je pense qu'il y a déjà un premier critère qui serait de se demander si l'activité même de l'entreprise, elle correspond ou pas, ou plus ou moins, à un intérêt général.
Et ça, je prends un exemple, extraire du charbon, ça ne correspond pas à l'intérêt général.
Pendant un temps, sans doute, ça a permis de développer une activité économique, mais dont on voit bien d'abord qu'elle a été assise sur des conditions de travail parfois indécentes pour les populations qui étaient celles qui travaillaient dans les mines. Donc toute la question, c'est déjà de faire en sorte que des minima sociaux en termes de qualité de vie au travail et de qualité de vie tout court soit assurée pour ceux qui assurent les travaux les plus pénibles dans nos sociétés. Donc ça, c'est un premier niveau. Et puis évidemment, quand on pose la question de la pérennité de ce type d'activité, on sait que si on veut respecter l'accord de Paris sur le climat, là encore,
ça ne tient pas.
Et un monde à plus de degrés, eh bien, il faut arrêter d'extraire ce charbon. Et ce qui pose d'énormes sujets de coordination et d'évolution de ces modèles.
C'était un exemple, mais d'autres formes d'évaluation.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça suppose de regarder donc le cœur de métier qui est même de l'entreprise, et de s'interroger peut-être sur une révision de la définition même de l'activité des entreprises. Pour l'instant, on sait qu'en droit français, ce sont les sociétés commerciales qui sont définies et pas les entreprises. Et il y a eu des propositions faites jusque pour l'élaboration de la loi Pacte, pour voir comment faire en sorte que soit intégrée de façon beaucoup plus forte, que ça n'est même le cas avec la loi Pacte, cette question de la compatibilité ou pas de l'activité avec des critères sociaux et environnementaux. Ensuite, il y a évidemment toute une question à se poser en matière d'indicateurs et d'accompagnement des stratégies des entreprises pour leur demander de rendre des comptes de la façon dont leur stratégie permettent pas simplement au niveau des moyens, mais aussi au niveau des résultats concrets, de diminuer leur empreinte carbone, de respecter des normes en matière de préservation de la biodiversité, sur les critères aussi de l'usage de l'eau, d'un certain nombre de ressources. Et là, il y a des travaux qui sont faits avec des efforts pour justement regarder au long des chaînes de valeur comment justement ces consommations se font, et en regardant ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique le scope 1, 2 ou 3, par exemple en termes d'émissions carbone. Pour regarder pas simplement les émissions directes d'une entreprise dans un secteur particulier, mais regarder aussi toutes les consommations d'énergie en amont et en aval.
La grande question quand même, Cécile Renoir, en vous écoutant, on s'est dit tout ça serait formidable si ça se passait vraiment comme ça, mais il y a... Je ne sais pas si vous les comprenez, mais il y a encore beaucoup de suspicions dans le public. Ce qu'on a appelé le fameux greenwashing, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise jure la main sur le cœur qu'elle s'intéresse beaucoup à ces questions environnementales. Mais cette évaluation est-elle suffisante pour s'en assurer? On a tous les jours des exemples. Je voudrais en citer un, je l'ai entendu il y a très peu de jours dans les actualités. Une usine de charbon qui a le label « énergie renouvelable » et dont on découvre, par exemple, que seuls 3% de sa production est vraiment liée à une énergie renouvelable. Or, elle a obtenu ce label. Et beaucoup de grandes entreprises, Total notamment, assurent qu'elles ne vont pas financer le charbon. Mais cette offre verte, qui est proposée aux consommateurs et qu'ils prennent de bonne foi parce qu'ils veulent justement financer l'énergie renouvelable, cette offre verte est proposée et on ne précise pas que s'il ne s'agit que de 3%.
Oui, absolument. Et puis là, vous
j'imagine
parlez du charbon.
Il y a beaucoup d'autres exemples comme
Mais
ça.
Il y a plein d'exemples. Et puis, quand on parle du charbon, en se disant le charbon, c'est ce qui est le pire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, c'est le pétrole et ensuite le gaz en termes d'énergie fossile. C'est très important d'avoir en tête des ordres de grandeur, mais en même temps, justement, d'autres ordres de grandeur qui nous montrent que nous n'y sommes pas du tout et que les trajectoires actuelles de nos sociétés nous font aller droit dans le mur. Et il y a là tous les rapports récents de l'ONU, du GIEC, d'experts, de climatologues français nous montrent que là qu'on est sur des trajectoires sur plus potentiellement 5, 6, 7 degrés, donc des catastrophes annoncées, ce qui veut bien dire qu'il y a derrière une interrogation mais qui concerne tout autant les États que les entreprises et que les consommateurs, c'est de se dire il nous faut réviser radicalement nos modes de production et nos modes de vie.
Mais cette usine, pour prendre celle-ci, qui annonce être éligible au label énergie renouvelable et qui ne produit que 3% d'énergie propre, comment est-ce possible ?
Ça, voilà, parce que les labels sont sûrement, enfin, ou ce type, il faut regarder ce que représente ce label exactement, comment il a été donné à cette usine, et ça implique à l'évidence de réviser la façon dont les déclarations d'intention sont suivies de pratiques, de politiques, de stratégies qui soient vraiment cohérentes. Et là, force est de constater que les dispositions qui sont prises aujourd'hui par les États ne sont pas suffisantes. Et quand on pense, là encore, à la loi Pacte, à la manière dont il s'agit pour l'entreprise de considérer les enjeux sociaux et environnementaux, sans préciser que considérer n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que la création de valeur soit cohérente avec le respect des limites planétaires. Et là, nous n'y sommes pas du tout. Voilà, donc des règles du jeu beaucoup plus contraignantes sont nécessaires.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Matière à penser, notre série cette semaine, environnement qu'il est dur de convaincre. Et c'est bien sûr Greta Thunberg que l'on entendait à l'instant. Comment osez-vous, je suis une enfant, vous gâcher mon avenir, le discours qu'elle tient depuis déjà plusieurs années et qu'elle tenait ce jour-là à la tribune des Nations Unies à New York. Ces critiques que soulève Greta Thunberg, surtout auprès des adultes, Cécile Renoir, est-ce que vous en êtes choquée ?
Bien, ce Greta bashing, comme certains disent, moi me semble aussi révélateur de la difficulté que nous avons à regarder en face ces sujets. Et je pense que s'il y a autant de critiques à l'égard de Greta Thunberg et à l'égard de formes d'interpellation extrêmement vigoureuse de jeunes excédés par l'incohérence entre les discours et les pratiques, ça signifie bien qu'il y a en fait au fond derrière quelque chose de très vrai qui se dit, mais qui n'est pas reconnu et qui nous gêne trop. Moi, je pense qu'elle a tout à fait raison de continuer à interpeller avec force. Simplement, après, il y a évidemment tout le côté peopleisation qui est le propre de la façon dont fonctionnent aujourd'hui nos sociétés, dont on peut se dire c'est pas suffisant que Greta Thunberg fasse des déclarations comme elle le fait. Il y a beaucoup d'autres acteurs et pas seulement des jeunes, à l'évidence. Il y a énormément de scientifiques qui essayent de faire bouger bien les sûr. Choses, dans les entreprises aussi. Moi, je suis témoin et je rencontre très régulièrement des personnes qui me disent combien ils sont conscients du fait que dans leur métier,
les
dispositions qui sont prises ne vont pas assez loin.
Prenons des exemples.
Alors, je donne un exemple.
J'étais
au comité des parties prenantes du groupe Michelin. Je précise que quand je parle d'une entreprise, c'est pas ni pour stigmatiser une entreprise, ni pour la mettre forcément spécialement à l'honneur, mais pour dire combien il y a des démarches qui me semblent quand même encourageantes du point de vue de la qualité de la discussion et des enjeux. Donc, je fais partie du comité des parties prenantes de cette entreprise et humaine. Et ce qui me frappe, c'est la façon dont les rencontres permettent au moins un niveau d'interpellation mutuelle entre les membres du comité exécutif de l'entreprise et les membres de ce comité des parties prenantes, avec un niveau de d'approfondissement d'un certain nombre de sujets qui auraient été impossibles il y a encore quelques années. C'est-à-dire la capacité à réfléchir à ce que veut dire la mobilité et à se dire, finalement, vous, Michelin, cœur de métier, votre entreprise qui est de produire des pneus pour tout autant le transport individuel que le transport public, les camions et l'aviation.
Voilà la responsabilité.
Responsabilité, ça pose quand même d'énormes questions par rapport à la façon dont vous pouvez parler de soutenabilité. Mais quand même, n'est-ce pas totalement contradictoire avec les enjeux planétaires? Et du coup, comment fait-on pour réfléchir, peut-être à nouveau frais, à ce que se représente une mobilité durable? Ou est-ce que c'est un oxymore, c'est-à-dire deux termes qui ne peuvent pas aller ensemble? Et donc, on a eu des débats sur la façon de concevoir la mobilité, peut-être plus comme auparavant, comme une espèce de droit fondamental pour tous, tous azimuts, sans aucune contrainte potentielle, sinon pour les uns et les autres quand même la contrainte financière, parce que certains ont évidemment beaucoup plus les moyens que d'autres de se déplacer d'un bout à l'autre de la planète très régulièrement. Mais là encore, de prendre conscience des ordres de grandeur, du fait que en France, on sait qu'il faudrait limiter à 1,8 tonnes par habitant et par an les émissions, la consommation de CO2, et que nous sommes à peu près 12 tonnes par habitant et par an. Et quand on fait un aller-retour Paris-New York, on dépense à peu près ça, 1,5 tonnes, je crois, 1,5 à 2. Déjà, de prendre conscience que nos modes de vie, qui sont des modes de vie assez habituels pour ceux qui ont pris des habitudes de prendre l'avion pour des raisons personnelles ou professionnelles, que tout ça, en fait, n'est pas soutenable au regard des objectifs mondiaux, ça implique pour des acteurs comme une entreprise de la mobilité, de se dire quel rôle est-ce que je peux jouer, moi, qui suis un acteur parmi d'autres, en compétition avec d'autres du même secteur, pour pousser à un changement qui, à mon avis, est avant tout déjà un changement culturel.
Bien sûr, mais en compétition, vous l'avez dit, ce qui n'est pas simple pour eux, bien entendu.
Quand on essaie de voir les leviers pour faire bouger les choses, évidemment, la question des choix des investisseurs est déterminante. Il y a tout un mouvement pour inviter des investisseurs ou des personnes qui peuvent acheter des actions à désinvestir, par exemple, des énergies fossiles. Donc ça, c'est une manière de prendre la question, disant, évitant d'investir massivement dans ce que certains appellent les actifs pourris, les « stranded assets ». Mais il y a aussi tout un mouvement de la part des institutions financières pour essayer de voir ce qu'il faut faire pour orienter autrement les choix d'investissement. Et donc la TCFD, qui est une task force qui a été pilotée par Bloomberg, a fait un certain nombre de propositions pour que les entreprises...
Bloomberg, dont on rappelle la puissance quand même, un grand
exactement.
Groupe.
Oui. Et qui a des financiers, oui, les plus puissants de la planète. Et en l'occurrence, il a piloté cette task force en lien avec le Forum de stabilité financière pour engager les entreprises à déclarer leurs émissions de carbone et puis sur un certain nombre de sujets liés à l'environnement, de donner très précisément des éléments relatifs à l'intégration dans leur stratégie, dans leur méthode de management, de ces questions écologiques. Et je trouve que c'est intéressant que de la part d'acteurs du monde de la finance, il y ait une volonté de faire pression sur les entreprises pour qu'on ait une vision beaucoup plus forte des enjeux. C'est aussi avoir en tête cette question de se dire, mais de quoi s'agit-il? Et qui est autre chose que de faire des déclarations d'intention pour dire, oui, le climat est un sujet et nous allons essayer de faire en sorte que nos stratégies soient plus alignées avec.
C'est un peu exceptionnel ce que propose la Bloomberg, ou ça vous paraît quand même une tendance assez positive?
C'est une invitation, on est toujours dans du soft. Donc voilà, la question c'est de savoir comment ensuite ça va être relayé.
Oui, rien n'est contraignant à ce stade.
Voilà. Mais on peut dire que c'est déjà un signal relativement positif et qui doit être mis à côté d'autres éléments qui essayent de faire bouger les choses. Et puis, tout ça à se traduire ensuite en droit dur. Et je pense par ailleurs à la loi qui est passée en 2017 en France, la loi sur le devoir de vigilance, qui oblige les entreprises, au-delà d'une certaine taille, à publier chaque année un plan de vigilance qui permet de montrer ce qu'elles font, ce qu'elles mettent en œuvre ou pas pour éviter d'être complices de droits de violations de droits fondamentaux au long des chaînes de valeur. Il y a un certain niveau d'exigence réglementaire. C'est une obligation de moyens beaucoup plus que de résultats, ce qui est problématique.
Et oui.
Mais on voit bien comment il y a des avancées qu'il faut pousser pour que, à différentes échelles nationales, européennes et internationales, les choses avancent.
Cécile Renoir, est-ce qu'à l'intérieur même des entreprises, justement, parce que évidemment la responsabilité sociale est importante aussi en interne, Est-ce qu'il y a une pression croissante quand même, assez sensible, de la part des salariés eux-mêmes ? L'entreprise finira bien à la fois sous la pression externe et interne, oui, par bouger, quand elle, même si elle ne le souhaite pas.
Je pense qu'il y a une certaine pression d'un certain nombre de salariés qui font ce qu'ils peuvent pour faire bouger les lignes là où ils ont des espaces de décision.
Allez, les bouteilles plastiques, nous en avons sous les yeux.
Voilà, exactement. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer les bouteilles plastiques par des verres d'eau du robinet. Nous avons tous plein de choix très quotidiens que nous pouvons faire. Et ça va des tout petits gestes, mais qui ne sont pas que symboliques, qui permettent aussi d'ancrer dans les comportements une conscience de la gravité des problèmes. Et puis, évidemment, toute la question pour l'entreprise, c'est de voir comment, là, je parlais des stratégies et des méthodes de management et aux manières de faire entrer de façon beaucoup plus forte ces sujets, écouter la frustration croissante, peut-être, de ceux qui proposent des manières de faire différentes, qui proposent d'avoir un peu de recul par rapport aux manières habituelles de créer de la richesse. Et je pense à toutes ces formes d'économie qui sont promues là depuis quelques années sur ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire vendre ou permettre des services plutôt que des biens en tant que tels, de manière à faire plus de choses avec moins de ressources, autant énergétiques que de ressources matérielles. Il y a d'autres formes comme l'économie circulaire qui invite aussi à être de plus en plus dans un système dans lequel les déchets deviennent des ressources. Mais il ne suffit pas de mettre en place des modèles d'économie de fonctionnalité, d'économie circulaire, d'économie collaborative pour être certain qu'il y ait véritablement une réduction des émissions et une réduction de cette empreinte carbone, etc. Et là, ça veut bien dire qu'on est sur des changements qui sont culturels avant de se transcrire, je pense, en transformation des modèles économiques des entreprises. Et qui dit changement culturel, ça veut dire changement dans la façon de se représenter, ce qui fait les critères d'une vie bonne, ce qui fait l'usage de nos smartphones et autres, l'usage de nos moyens de locomotion, le type d'alimentation que nous avons. À tous les niveaux de nos existences individuelles et collectives, des questions se posent qui demandent d'être appréciées au regard de ces exigences de transformation.
Je l'ai dit, Cécile Robert, vous êtes professeure de philosophie, éthicienne, et vous travaillez donc sur cette question des responsabilités éthiques et politiques des entreprises. Et comme beaucoup d'autres, nous l'entendons dans cette série, vous comptez beaucoup sur la génération à venir et la jeune génération présente. Et vous êtes à l'origine de la création du Campus de la Transition, qui est une résidence en région parisienne. Et c'est un sujet qu'on aborde, j'imagine, ces bons moyens de convaincre, comment connaître
exactement
la réalité ne suffisant pas, comment aller plus loin, comment convaincre. Dites-nous un peu ce qu'est ce Campus de la Transition.
Alors, ce Campus de la Transition, c'est à la fois une association, donc un réseau de personnes qui se sont réunies il y a 3 ans pour la première fois pour réfléchir à ce que pourrait être proposition de formation à destination d'étudiants de grandes écoles et d'universités, puis à destination de professionnels de différents horizons, de manière à justement aider chacun et
à intégrer. À partir du constat des lacunes dans ce domaine.
Exactement. À partir du décalage, là encore, entre le niveau d'engagement annoncé et la réalité des cursus aujourd'hui ou des modèles économiques dans les entreprises, se dire comment faire pour essayer d'aider des gros paquebots que sont à la fois des grandes écoles, des universités, des grandes entreprises à bouger. Et donc en disant parler de transformation culturelle, si nous voulons nous exercer à entrer davantage dans ce que peut être un mode de vie décarboné, sobre, solidaire, convivial, il faut d'abord l'expérimenter. L'idée, ça a été de créer une association, mais ensuite de s'ancrer dans un territoire, en l'occurrence à Forges, qui est un village de 500 habitants en Seine-et-Marne, près de la ville de Montereau, dans lequel un bâtiment qui a un château du 18e avec d'autres corps de bâtiment, tout ça a été mis à disposition du projet pour favoriser donc l'accueil d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels, et avec l'idée qu'il s'agit d'un type de formation qui n'est pas que intellectuelle, qui vise à donner des ressources de compréhension de ce qui se passe à différentes échelles aujourd'hui, mais de manière à pouvoir donner à chacun des leviers pour agir dans la vie très quotidienne, comme au niveau des politiques publiques, au niveau des entreprises. Et du coup, alors je me suis installée sur place avec 8 jeunes professionnels, pour essayer d'être nous-mêmes, de nous mettre dans un mouvement de transition dans nos vies quotidiennes. Ça veut dire qu'on essaye de réfléchir, alors avec d'autres, à ce que peut être la rénovation écologique d'un bâtiment ancien, ce qu'est une mobilité douce, on va dire, ou bas carbone, quand on a 7 km à faire entre le domaine où nous nous trouvons et la gare de Montereau, où nous prenons le train pour certains au moins pour aller à Paris. Puis du point de vue de l'alimentation, travailler avec les agriculteurs voisins qui ont souvent des grosses propriétés, qui sont très conscients des enjeux de la transition, mais qui ne peuvent pas aisément mettre en œuvre des transformations des modèles. Donc c'est accompagner des acteurs divers dans des changements qui ne peuvent être que progressifs, alors même qu'ils doivent être extrêmement exigeants pour tous.
Mais ça rentre dans un cursus universitaire, c'est-à-dire un étudiant, alors, par exemple, d'une grande école peut choisir de faire diplômant, c'est comment ça se termine?
Alors, il y a deux types pour l'instant de formation que nous organisons. Nous avons eu l'an dernier, alors c'était la première année, donc un peu des tests, des cours délocalisés d'école, en l'occurrence un cours de centrale, école d'ingénieur, et un cours de l'ESSEC, où les étudiants ont passé plusieurs jours en immersion à Forges, un cours qui rentre dans leur cursus. Puis nous avons organisé 2 mois de formation avec le mouvement Colibri en avril et mai dernier. Là, c'est pour l'instant un certificat qui n'a de valeur que celle que les étudiants professionnels qui ont participé lui donnent. Mais je pense que ça a été une expérience très marquante pour ceux qui ont reçu cette formation, qui touchait à la fois les questions de diagnostic sur les modèles macroéconomiques, sur les enjeux climatiques globaux, et puis qui était aussi une interrogation sur des outils de discernement éthique, sur des modèles économiques, sur justement l'économie des communs, une interrogation, la possibilité de pouvoir avoir un certificat de permaculture pour réfléchir à des formes de vie qui intègrent davantage un rapport constitutif au vivant dans nos modes de vie. Puis une interrogation sur les enjeux de gouvernance partagée à différentes échelles. Et tout ça avec un partenariat, d'ailleurs maintenant, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que le campus va piloter un livre blanc qui devrait être remis à la ministre en juin prochain sur les enjeux d'intégration dans l'enseignement supérieur de ces questions écologiques et sociales, avec l'idée de travailler sur un socle commun de connaissances, compétences, que tout étudiant dans le supérieur devrait pouvoir acquérir.
Et qui reste très absent des formations actuelles.
Oui, ça reste.
Si on revient aux grandes écoles, vous parlez d'écoles d'ingénieurs centrales, mais beaucoup d'autres.
Voilà, il y a eu l'année dernière, je pense, un certain nombre de personnes ont dû entendre parler d'un rapport du Shift Project, qui est un think tank, qui a fait une enquête, qui s'appelle Climasup, sur l'intégration ou pas des questions énergie-climat dans les cursus. Et j'en retiens, moi, un chiffre, par exemple, pour les écoles de commerce, qui était le fait que à peu près 6% des écoles de commerce ont un cours obligatoire sur ces sujets. Je veux dire qu'il y a encore un espace de progression très grand pour faire en sorte que ces sujets soient vraiment abordés d'une manière qui ne soit pas cosmétique ou marginale.
Et autre point un peu ennuyeux, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la très forte consommation des jeunes, plus importante encore que celle des adultes liés au numérique. L'utilisation des vidéos qui représentent des données absolument considérables.
Et je crois que...
Et donc une participation au réchauffement vraiment très importante, c'est un paradoxe assez regrettable. C'est loin d'être indolore, là,
je crois,
de ce côté-là.
Voilà, Netflix et YouTube, à eux deux, représentent 26% à peu près de la consommation énergétique sur le net.
Et qui ne fait qu'augmenter.
Et ça ne fait qu'augmenter. Ouais. Voilà, et donc ça c'est sûr que...
Et forte consommation chez les jeunes, c'est un paradoxe par rapport à leur mobilisation et surtout à leur point de vue, enfin à leur manière d'aborder cette question.
Ben oui, et ce qui veut bien dire
ils interpellent les adultes, mais...
Oui, là, il faut de la sobriété numérique, ce qui veut dire peut-être avoir un smartphone, mais en avoir qu'un, qu'on fait durer le plus longtemps possible, avoir un seul écran, et surtout se rendre compte, parce que ça c'est une donnée qu'on connaît moins, que dans l'empreinte carbone du digital, 90% je crois est liée à la production de tous ces outils numériques. Ça veut dire que les outils connectés, en fait, il faudrait les réduire au maximum. Enfin, ce qui est complètement contradictoire avec tout ce que promeuvent un certain nombre d'économistes, d'ailleurs, sur ces sujets. Donc là, il y a aussi de fortes révisions de nos d'études à faire pour bien prendre conscience du caractère insoutenable de cette consommation numérique.
Nous avions surtout en tête, dans cette discussion, les grands groupes, les grandes entreprises, bien sûr, puisqu'elles sont largement les plus émettrices. Quel travail faites-vous auprès de toutes petites entreprises qui sont sur d'autres préoccupations, peut-être plus quotidiennes?
Nous essayons de, justement, et notamment dans le cadre du campus...
Et quel est leur niveau de conscience aussi du phénomène, de la gravité du phénomène?
Bon, pour discuter avec un certain nombre de dirigeants de PME, moi je vois une conscience forte des enjeux. Peut-être, dans un certain nombre de cas, des leviers plus rapides que pour des grosses structures dans lesquelles il peut y avoir une inertie plus forte. en même temps, en permanence, le souci de l'équilibre financier de ces entreprises, d'où la nécessité, là encore, de travailler sur des règles du jeu communes et qui facilitent les choses pour les plus petits acteurs. Puis ce que je vois, c'est aussi une capacité d'innovation, de créativité, d'invention, de nouveaux modèles. Alors là, de toutes petites entreprises qui essayent de créer de l'activité à différents niveaux, dans des territoires. Là, il y a une énergie et un gisement énorme pour retrouver aussi des savoir-faire plus traditionnels, des manières d'envisager des activités type artisanal, enfin des
moins
énergivores, beaucoup plus low-tech et qui, je pense, ont un grand avenir devant elles. Alors, il s'agit pas d'opposer complètement les low-tech au high-tech, mais de dire, mais comment faisons-nous justement pour favoriser au maximum ces aspects low-tech qui aussi ont le mérite de retisser du lien social et puis de permettre une qualité de vie aussi tout à fait bonne et conviviale.
Et qui se développe largement sur les territoires. C'est quand même un point d'espoir. Vous en avez d'autres de points d'espoir en ce qui concerne les entreprises, Cécile Renoir?
Mais je dirais ce que
si l'on repart de notre thème, comment les convaincre?
Il me semble qu'il y a deux choses. D'une part, le fait que des personnes dans les entreprises soient de plus en plus conscientes des problèmes et au plus haut niveau, il faut dire comment ça va se traduire dans des décisions prises de façon beaucoup plus structurante. Ça, c'est une chose. Après, je repensais à une phrase de Gandhi qui disait que sur l'exemplarité, c'est pas simplement la meilleure manière de convaincre, c'est la seule. Nous, et je me mets dans la boucle, nous faisons tous l'expérience de nos incohérences. Mais disons que si, ce que je trouve très fort chez les jeunes, c'est une forme d'exemplarité. Chez ceux avec lesquels je vis ou que je côtoie, là, je vois en fait une capacité à se mettre en cause plus forte que ceux qui ont pris des mauvaises habitudes. Et donc, dans les entreprises, je vois un peu la même chose. C'est-à-dire des jeunes qui sont prêts, en fait, à renoncer à un job, à une sécurité, parce qu'ils estiment que ce n'est pas cohérent, et pour chercher une activité professionnelle qui ait vraiment du sens pour eux. Et je pense que cette pression-là, exercée par les jeunes diplômés, y compris ceux qui sortent des grandes écoles les plus reconnues, peut être un signe très fort d'espoir quant à la capacité de faire évoluer nos modèles économiques. Parce que chez les jeunes, c'est ce souci de la cohérence. Nous, on ne veut pas de n'importe quel type d'emploi et nous voulons vraiment privilégier une activité humaine et professionnelle qui soit vraiment cohérente avec ces enjeux planétaires et qui, du coup, nous évite des schizophrènes. Je pense que c'est la meilleure manière d'arriver à faire bouger les choses.
Eh bien, merci Cécile Renoir d'être venue nous trouver. Donc, travaille avec les entreprises et c'est très intéressant. Campus de la transition, on mettra en ligne toutes les informations nécessaires à ce sujet et aussi les ouvrages auxquels vous avez collaboré, que vous avez dirigé et écrit également.
Merci.
Je cite juste un livre de Cécile Renoir, il y en a plusieurs, notamment écrit avec Gaëlle Siro, votre complice sur ces questions, réformer le capitalisme et beaucoup d'autres sujets. Et puis Éthique et entreprise, qui est un ouvrage auquel vous tenez beaucoup, qui est paru
aux éditions de l'Atelier en 2015.
Sandrine Chaperon, Catherine Donnet et notre stagiaire Justine Ville, dont assurait la préparation, la documentation de notre émission. Et c'est Anne-Laure Chanel, en compagnie ce soir d'Olivier Dupré, qui la réalise. Très bonne soirée à tous.